France Musique. Musicopolis. Juin 1827, Florence. C'est au printemps 1827 qu'on annonce dans la capitale toscane le musicien chevalier Paganini, agréablement entouré de Madame Grisi et de Madame Bianchi, de passage ici, aura l'honneur de faire entendre son violon en exécutant un grand concerto en trois mouvements avec clochette obligée, une sonate militaire sur la quatrième corde du violon et des variations à la polonaise. Le chroniqueur de la Gazzetta di Firenze du 30 juin 1827 rend compte du concert de Paganini en ces termes « Tout surpris, tout ravi les auditeurs ». Nous n'aurons malheureusement pas d'autres détails sur l'interprétation du deuxième concerto du maestro. Pour ce qui est de la genèse, nous n'en savons guère plus, si ce n'est que le 12 décembre précédent, Paganini informe un de ses amis par lettre qu'il a achevé un second concerto avec clochette obligée et un troisième avec polonaise. La composition remonte donc à avant le 12 décembre 1826. C'est ce que je peux vous proposer de plus précis. Au moment où Paganini compose son deuxième concerto, sans doute à l'été ou à l'automne 1826, il a 44 ans. Quelques années plus tôt, Stendhal le considérait comme le premier violon d'Italie et peut-être du monde. Et il le décrivait comme un jeune homme aux yeux noirs et perçants et à la chevelure touffue. Jusque-là, Paganini s'est cantonné à l'Italie. Il a vécu dans plusieurs villes et il en a visité encore plus. Né à Gênes, c'est là que Paganini a reçu ses premières leçons de violon de son père et de quelques musiciens locaux. Après avoir poursuivi sa formation à Parme et Livourne, à 19 ans, il est à Lucques. À Lucques, Paganini donne quelques concerts en soliste. Il est critiqué pour son comportement peu orthodoxe. Il imite des cris d'animaux pendant le concert, il fait des blagues. On lui reproche ses infidélités aux textes des œuvres des autres compositeurs et aussi sa vision très personnelle de la vie, plutôt anarchique. Néanmoins, sa réputation grandit et bientôt sa position financière se stabilise lorsqu'il est nommé premier violon puis chef de l'orchestre de la cour. Il trouve du temps pour composer et il déploie dans ses œuvres sa technique époustouflante. En 1810, à 28 ans, il décide de se lancer dans une carrière de soliste indépendant. D'abord, il s'embarque dans une tournée en Émilie-Romagne et en Lombardie. Il fait beaucoup de rencontres intéressantes, notamment à Milan. Il est invité à se produire à la Scala, où il remporte un franc succès. Thank you. Après ses succès à Milan, Paganini revient dans sa ville de Gênes. Mais parce qu'il a une liaison avec une jeune fille, il est obligé de se réfugier à Parme en sa compagnie. À la fin de leur aventure, de retour à Gênes, le père de la jeune personne lui intente un procès pour détournement de mineurs. Et Paganini doit même faire quelques jours de prison, assorti d'une grosse amende qu'il devra payer quelques années plus tard au terme d'un procès à rebondissement. Malgré cela, il a de plus en plus d'engagement. Il revient à Milan, on le fait venir à Venise, à Trieste, il passe par Piacenza et Bologne. Il compose et dans toutes ses œuvres, pour violon, pour guitare, pour orchestre, on reconnaît ce qui fait le fond de sa double personnalité. D'une part, bien sûr, une virtuosité incroyable, mais aussi un art du chant à l'italienne. C'est au cours d'un séjour à Bologne que Paganini rencontre Rossini. Une grande amitié va naître entre les deux hommes. Paganini va composer plusieurs séries de variations sur des thèmes d'opéra de Rossini. Et ce dernier, en écoutant son ami chanter avec son violon, affirmera « Si Paganini devenait compositeur d'opéra, il nous battrait tous à plate couture ». On se doute qu'une virtuosité hors norme, comme celle de Paganini, a suscité bien des commentaires. Les critiques, surtout en dehors d'Italie, ont tendance à lui reprocher de jouer trop à l'italienne. C'est-à-dire sans doute de manière trop libre, trop extravagante. Après l'avoir entendu à Naples, une dame anglaise écrit « Le fameux Paganini joua. Il a beaucoup de talent, mais aussi une bonne dose de charlatanisme. » Et un critique allemand Son exécution sur la quatrième corde révèle une étude infatigable, mais est dépourvue de raffinement. La même chose vaut pour les octaves, qu'il joue beaucoup mieux que les autres violonistes. mais là encore, manque la touche finale. Il réussit même à produire des trilles à l'octave, bien que cet artifice ne lui réussisse pas toujours. En bref, il n'est pas un artiste au sens accompli du terme. Pour essayer de se faire une idée du jeu de Paganini, on peut chercher encore d'autres descriptions. Celle-ci, par exemple, d'un haut magistrat qui a l'occasion de le voir de très près, est assez frappante. C'est extraordinaire ce qu'il peut faire avec sa main. Il plie littéralement les doigts et peut allonger tant le pouce à gauche qu'il l'enroule autour de l'auriculaire. La main se meut dans l'articulation comme si elle n'avait ni muscles ni os. Durant ses années de tournée en Italie, Paganini passe par Rome, où on l'aime tant qu'on lui promet une médaille qui lui sera remise par le pape. Il part ensuite pour Naples, où il va passer près de 2 ans et où il composera son 2e concerto. Pendant qu'il est à Naples, Paganini fait la traversée vers Palerme, où il va donner des concerts. On sait que pendant son séjour, il est surveillé par la police. Mais le directeur des RG de Palerme rapporte qu'on n'a rien tiré de cette surveillance, sinon que le musicien reçoit de fréquentes visites d'un membre du Sénat et d'un notaire, et qu'un peintre vient faire son portrait. Tout ce que remarque l'espion est que les visiteurs porte déjà les cheveux à la manière de Paganini, un peu long sans doute et décoiffé. Un journal palermitain chronique le dernier concert du maestro. Les applaudissements ont précédé, accompagné et suivi le son magique de son violon. Les non-connaisseurs ont éprouvé toute la force du sentiment. Les connaisseurs ont manifesté en outre ce qu'on pourrait inexactement définir comme de l'émerveillement. Les délices de cette soirée auraient été imparfaites si elles n'avaient pas été accompagnées de l'espérance de les voir répéter quelque autre fois. Dans son ouvrage sur l'art de Paganini, un violoniste allemand, Karl Gur, essaye de détailler ce qui distingue le maestro. Deux éléments surtout l'impressionnent au plus haut point. D'abord, les harmoniques, des sons qui paraissent flûtés, fantomatiques, produits lorsqu'au lieu d'appuyer fort sur les cordes avec les doigts de la main gauche, on les effleure délicatement. Et puis aussi, les pids de main gauche. Les pids, c'est-à-dire des pincements de cordes à l'aide d'un doigt, comme on fait sur une guitare, et qu'on réalise habituellement avec la main droite, ce qui est assez pratique, mais que Paganini, lui, fait avec les doigts de la main gauche. Un témoin raconte « Il jouait avec deux doigts une mélodie, et simultanément, il faisait l'accompagnement en pizzicati avec les trois autres. Quelquefois, on avait l'impression que trois personnes jouaient. » Dans son livre sur Paganini, Karl Gur tient à répondre aux nombreux ragots et racontars qui courent sur l'artiste, sans doute, écrit-il, à cause de son air souffrant. On prétend qu'il a langui longtemps dans les cachots de l'Inquisition, qu'il a vécu parmi les voleurs, qu'il a été le meurtrier de sa femme. Enfin, on fait sur lui 1000 contes de nourrice. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela. Quand on le connaît mieux, on apprécie son excellent caractère. Il ne vit que pour son art et pour un fils âgé de 4 ans qu'il chérit avec une tendresse toute particulière. on entend dans ce cantabile de Paganini son amour de la mélodie, simple, sans chichi, aux antipodes de l'idée qu'on se fait de la pyrotechnie instrumentale. Notre musicien aime aussi les timbres, celui de la guitare, celui du violon, non seulement lorsque l'instrument est poussé dans ses derniers retranchements, qu'il sonne comme une flûte ou comme un orgue, mais aussi lorsqu'il chante, tout simplement. Un témoin raconte, puis il imita un âne, un perroquet et un merle, tous naturellement, d'une manière merveilleuse. On aurait aimé l'écouter dans le final du deuxième concerto, lorsqu'il imitait la clochette. Final avec clochette obligée du deuxième concerto de Paganini. Ruggero Ricci au violon avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Anthony Collins. Tout le programme détaillé et la réécoute sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne manquer aucune de nos passionnantes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Bernard Laniel pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.